Bonjour à tous et merci pour l'accueil. Je vais juste aller chercher la télécommande.
Merci.
Voilà. C'est bizarre cette période qui commence à durer maintenant. On ne peut pas faire tout ce qu'on a envie, on va rester espacé, ou peut-être ça met les craintes chez les uns, chez les autres. Et puis on ne sait pas toujours très bien quoi penser de tout ça, en fait, hein. Il y a tellement d'avis différents. Mais voilà, on y est et on doit vivre ça ensemble. Et je crois que le Seigneur est là avec nous aussi dans ces circonstances. C'est bien de se rappeler cela. Il a dit qu'il était avec nous tous les jours. Donc, ça va bien, ça va moins bien, c'est des périodes compliquées. Et puis il ne faut pas qu'on oublie, nous qui vivons en Europe, à Genève, avec soi, que finalement ce n'est pas très compliqué tout ça. Il y a beaucoup d'autres chrétiens dans le monde qui vivent des situations tellement plus complexes. Voilà. Donc, Christian m'a invité pour ce matin. Je lui ai dit, mais c'est un petit peu quoi le thème que vous abordez en ce moment? Donc, je savais qu'il y avait des trucs différents avec des temps un petit peu de questions, de partage. Et il m'a dit, mais je crois que c'est une série un peu sur le discipola. Donc, j'ai à cœur de partager un petit peu sur des disciples différents, mais en même temps semblables. On va plus dire semblables et différents. On est tous disciples, mais est-ce qu'on fait tous les mêmes choses? Ou en tout cas, on est tous appelés à être disciples. Alors, on peut lancer le PowerPoint? Merci beaucoup. On connaît bien ce texte qui est là, on va dire le dernier message de Jésus. Je ne l'ai pas affiché, mais je crois qu'on le connaît tous. Quand il a accompli son œuvre, il est mort, il est ressuscité, il est resté 40 jours avec ses disciples, il leur a donné des instructions. Et la dernière chose qu'il leur dit, c'est comme ça dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc c'est le mandat le plus important qu'il laisse à ses disciples qui restent avec lui. Ils sont nombreux déjà. Il y a les 12, mais ils sont plus que les 12, on va le voir ensemble. Il leur dit, le mandat que je vous donne, et c'est le nôtre encore aujourd'hui, on peut le dire à notre voisin, c'est encore ton mandat, faire de toutes les nations des disciples. Commence chez nous, à Versailles, Genève, la Suisse, etc. Et puis, enseigner, déjà nous, pratiquer ce que Jésus nous a dit et enseigner les autres à pratiquer. C'est le mandat de chacun. Ce n'est pas juste pour les pasteurs ou le conseil ou les responsables ou ceux qui font le catéchisme, c'est le mandat de chacun, même si Jésus le donne d'abord à ses 12. Donc c'est important de se rappeler ça. Je pense que tout ça, vous savez, disciples, on le trouve tellement souvent dans le Nouveau Testament. Chrétien, on le trouve 3 fois, parce que c'est un mot nouveau. Hein, on l'appelait des croyants, ou alors c'était des juifs qui suivaient Jésus. Mais le mot disciple, c'est le mot par excellence qui qualifie ceux qui suivent Jésus. Et hier soir, on était invité avec mon épouse, Christelle, qui est là chez ma fille, qui vit en colloque, avec des croyants et des non-croyants. En fait, c'est surtout des non-croyants qui sont avec elle. Hein. Et en fait, ils voulaient nous voir, nous rencontrer, parce qu'ils avaient envie de savoir c'est quoi un pasteur, une femme de pasteur. C'était intéressant. Et puis, bien sûr, quand on discute, voilà, on parle des chrétiens, ou on parle du christianisme, mais en fait, souvent, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous, on comprend dans le fait d'être chrétien. Et je disais, mais, et si on disait, au lieu de dire chrétien, on est disciple de Jésus. Alors, bien sûr, tout le monde ne comprendrait pas ce que c'est, mais je pense que ça nous aiderait même entre nous si on se disait ça. Voilà, moi je suis disciple de Jésus. Je veux vivre ce qu'il a dit. Parce que chrétien, c'est un mot, oui, ben, je ne suis pas musulman, je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas agnostique, mais ça, dans le monde aujourd'hui, en Occident, ça ne donne pas un sens tout de suite clair aux gens. Et le Nouveau Testament, il fait bien la différence. Tout le monde était croyant, en fait, on peut dire. À peu de choses près, hein. L'athéisme, c'était pas vraiment quelque chose de très répandu. Mais on croyait Moïse, on croyait toutes sortes d'enseignements qui étaient donnés. Mais pour l'Église, il sur l'appel, on priait ce matin, tu me disais, c'est d'abord un ensemble de personnes, c'est pas un bâtiment, c'est des disciples de Jésus. Donc c'est important de se rappeler ça, que tout le Nouveau Testament, ce qu'on croit, c'est on parle de disciples. Et si on pense à ça pour nous, on est des disciples de Jésus. On va voir c'est quoi ces disciples. C'était habituel à l'époque de Jésus qu'on soit disciple. C'est pas Jésus qui a inventé ça. Quand on voulait être rabbi, rabbin, c'était très courant. Beaucoup de gens pouvaient être rabbin dans le judaïsme. Il y avait une formation, mais il y avait aussi différentes choses qui devaient être accomplies avant. On devait avoir un métier, mais on avait besoin d'avoir 12 disciples. On ne pouvait pas être appelé rabbi si on n'avait pas 12 disciples. C'était le chiffre minimum. Et on voit que Jean-Baptiste, il avait des disciples. Et ce n'était pas une question inhabituelle pour les gens. Quand tout à coup, les disciples de Jean-Baptiste posent la question aux disciples de Jésus, ils disent, mais c'est les disciples de Jésus qui disent, mais regarde, maître, les disciples de Jean-Baptiste, ils font ça, et les tiens, ils ne font pas ça. Et ça nous aide à comprendre que pour l'époque, le mot disciple, c'était quelque chose de très clair. On comprenait ce que ça voulait dire, et c'était naturel qu'un enseignant avait des disciples et qu'ils suivaient son enseignement. Marc 2, 18, par exemple. Les disciples de Jean et les pharisiens jeunes, ils vinrent dire à Jésus, pourquoi tes disciples, les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, mais les tiens ne jeûnent-ils pas? Donc ils ne posent pas la question, c'est quoi les disciples, mais ils se posaient la question, pourquoi? Donc c'est quelque chose de normal. Ensuite, quelque chose qu'on voit souvent, et ça doit nous interpeller, je n'ai pas affiché, mais je suis sûr que vous connaissez ces textes. Matthieu 23, pour ceux qui prennent des notes, verset 1. Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples. Et quand Jésus parle, on voit souvent ces deux groupes de personnes. Vous êtes d'accord, hein? Il ne dit pas exactement la même chose à la foule et à ses disciples. Et je crois qu'il y a une question qu'on doit se poser. Est-ce que je suis dans la foule ou est-ce que je suis un disciple? Et je crois que tout ce que Jésus dit à la foule, on peut le prendre pour nous, même si on est disciple depuis longtemps. Jésus parle du fait que Dieu est un père, qu'il aime, qu'il veut se faire connaître. Il adresse des paraboles à la foule. Mais quand il parle à ses disciples, il leur dit des choses différentes. On va en voir quelques-unes. Donc, une question qu'on peut se poser, est-ce que finalement, moi, je me situe dans la foule ou je suis un disciple de Jésus? Et je crois que quand Jésus parlait, il y a des moments, par exemple, quand il est dans le sermon sur la montagne, et on voit ça bien, il parle à toute cette foule énorme qui était là. Il y a des moments, il devait se tourner plus principalement vers ses disciples. Il n'y a pas que ses disciples. J'imagine, hein, Jésus, il se tournait, il s'adressait aux 12 qui étaient là. Et il y avait des choses qui étaient un petit peu différentes. Disciple, on va voir, qu'est-ce que ça veut dire? D'un point de vue étymologique, quand on utilise ce mot, comment le mot est construit dans la langue, c'est un élève. C'est celui qui suit l'enseignement d'un maître. Et en fait, il devient le disciple ou il devient l'apprenti. Donc, j'ai appris que tu entrais en retraite, mais tu es toujours apprenti. On est toujours encore apprenti. C'est bien de se dire ça, hein. Je suis apprenti de Jésus. Tant qu'on sera sur terre, on demeure tous des apprentis de Jésus. Il est en train de nous enseigner. Est-ce qu'on est conscient de ça? Il veut nous communiquer à la fois des informations, mais bien plus des manières d'être et des manières de faire. Alors, on va aller à mon PowerPoint, si déjà je l'ai fait. Fonctionne-t-il? Il ne fonctionne pas. Il marchait bien avant.
Si, il va fonctionner.
On va lui parler.
Là, c'est bon. Là, c'est bon.
C'est bon. Non, parce que elle est là. Là.
Bon, ça marche pas.
Ouais, bah sinon, ouais, je pense que c'est bon, c'est quoi. Alors, on va voir ensemble. Qu'est-ce qu'un disciple? On a déjà vu un tout petit peu. On va voir aussi que. Et je pense que c'est important parce que ça nous a souvent posé quelques questions. Ces disciples, ils sont à la fois tous semblables et en même temps très différents. Et je crois que non, ça marche pas. Donc je te laisse appuyer, ce sera plus simple. Tu peux y aller. Et puis, je ne sais pas si on abordera ça, que t'importe, toi, suis-moi. On va lire la suivante, c'est un texte où Jésus parle de ses disciples. La suivante, après où il y a le texte. Voilà, encore une fois. C'est bizarre, avant ça marchait. Ah ben là, ça marche. Vous voyez. On va le lire ensemble. Hein. J'ai pris la Bible du Semeur, traduction Semeur, j'aime bien. Donc, un des textes clés où Jésus parle à la fois à la foule et à ses disciples. Là-dessus, Jésus appelle la foule ainsi que ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut me suivre, et je crois qu'il parle aux deux en même temps là, hein. C'est des fois où il s'adresse aux deux en même temps. Pardon. Merci, merci. Excusez-moi pour ceux qui sont en ligne et je vous salue. Désolé, j'ai bougé un petit peu. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. C'est bien actuel hein, dans cette période, je trouve. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? Et entre guillemets, c'est sa vie ici-bas et sa vie dans l'éternité. C'est ça que Jésus veut dire. Et que peut-on donner pour racheter sa vie ou son âme? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et Jésus parle de son retour sur cette terre où il va venir régner. On connaît bien le début, j'imagine, où Jésus dit, si on veut être son disciple, on doit renoncer à tout et le suivre. On ne peut pas faire autrement. Donc, on comprend bien qu'être disciple de Jésus, ce n'est pas juste avoir une foi qui nous arrange un petit peu, mais c'est un engagement qui va changer notre vie. Est-ce que ça a changé notre vie? Oui, hein, je pense. Puis après, il dit, on doit se charger de sa croix, c'est-à-dire on doit renoncer à soi-même, on doit être prêt à donner sa vie. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, parce que je pense que là, on a parfois aussi peut-être des a priori qui nous empêchent de concrètement donner notre vie. Et qu'ils me suivent. Est-ce qu'on doit tous suivre Jésus comme l'a fait Pierre ou comme l'a fait Paul? Grande question. Je crois que non, on va le voir après. Hein. C'est-à-dire de la même manière, en faisant la même chose qu'eux. Mais Jésus dit, on doit être prêt à le faire. C'est-à-dire que quand on lui a donné notre vie ne lui appartient plus, c'est la sienne. Et du coup, il va prendre soin de nous. Et après, donc, il continue avec cela. Si on est préoccupé par sauver sa vie, on risque de la perdre. Et on doit penser à l'éternité. C'est ça qui doit nous motiver. Et j'aimerais m'arrêter sur ces deux derniers versets. Je vais les relire. Et ça doit... Moi, ça m'interpelle. Et je nous interpelle. Je crois que ça nous interpelle. Et peut-être c'est une des questions qu'on peut se poser pour le petit temps de discussion qu'on aura après. Jésus dit à tous ces gens, il nous dit à nous, si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, au milieu des hommes de ce temps qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire avoir honte? Quand on a honte, on se cache. Hein. Quand on a honte, on a peur d'affirmer qui on est et ce qu'on croit, et parfois de se mouiller un peu. C'est vrai ou pas? Je ne veux pas culpabiliser ce texte, il peut tous nous reprendre, moi le premier. Mais quand même, on doit se laisser interpeller, sinon on lit la Bible pour... C'est quand la dernière fois où tu n'as pas osé dire que tu étais chrétien, disciple de Jésus, ou par rapport à certaines exigences de l'Évangile, tu es passé à côté parce qu'on s'est dit « mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» C'est fort ce texte. Hein. Jésus il dit, quand je, si tu as honte, si j'ai honte, quand lui va revenir, il aura honte de nous. Et donc, je crois qu'il faut qu'on soit honnête. Quand on lit un texte comme ça, on doit le laisser vraiment taillader un peu dans notre cœur et dans nos craintes et dans nos peurs. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui.
Et dire, Seigneur, ben voilà, peut-être j'ai besoin que tu touches ça. Et que, avec sagesse, j'ai l'audace de dire clairement qui je suis. Et qu'est-ce que je crois? Et pourquoi je ne fais pas certaines choses dans le monde dans lequel je vis? Un petit tableau, je crois que je l'ai partagé pour un autre message une fois ici. En tout cas, je sais que je l'ai donné au conseil hein, quand on parlait des différents ministères et des différentes. Comment on envisage l'Église. Comment est-ce qu'on comprend l'Église? C'est ça la question. Si on est un paroissien ou si on est juste un croyant, on va dire. Parce que je crois qu'on peut être un paroissien, un croyant, et mais on n'a pas une vie de disciple. Eh bien, souvent, on comprendra l'Église comme un endroit, comme un bâtiment, ou comme une série de réunions. Mais quand on est disciple, l'Église, c'est d'abord une communauté qui se réunit dans des maisons, dans un bâtiment. Moi, je continue à croire que c'est une bénédiction d'avoir des lieux de culte et qu'on en a besoin en Occident. Tout faire dans les maisons, je pense qu'on doit offrir beaucoup de choses dans les maisons, mais je crois qu'il y a quelque chose qui manque. Dans le Nouveau Testament, ils avaient des lieux de rassemblement. Leur maison était souvent très très grande et on ne mettait pas juste une ou deux familles, on mettait beaucoup beaucoup de gens dans les endroits où ils se réunissaient. Quand on est juste un croyant ou un paroissien, notre préoccupation première, on va être fidèle. On va donner sa dîme fidèlement, on va venir au culte fidèlement, on va prier pour les sujets qu'on nous envoie, on va faire ce qu'on nous demande de faire. Je caricature un peu, hein. Mais quand on est disciple, on a aussi envie d'être fidèle, mais on sait qu'on doit se reproduire. Et c'est pas, je ne parle pas là d'avoir des enfants dans le cadre d'une famille humaine. Mais ce qu'on a reçu de Jésus, on a envie que d'autres puissent le recevoir. Et j'aimerais dire, ce n'est pas toujours en faisant des nouveaux convertis, mais c'est quand même la chose la plus évidente. Mais ce qu'on a reçu peut-être, qu'on a compris, on a envie de le transmettre à d'autres pour qu'ils puissent le vivre aussi. Quand on est juste un paroissien, ou quand on est, et c'est bien, hein, ou un croyant, on vit sa foi par les réunions, toutes les réunions qui existent. Et c'est bien, hein, la Bible et le Nouveau Testament nous parlent de ça, de l'importance d'être ensemble, de se réunir, de persévérer, de la communion fraternelle. Mais en tant que disciple, le plus important, c'est les relations. Si on se réunit et qu'on ne s'entend pas bien, qu'il n'y a pas de bonne relation, on est passé à côté. Donc c'est important de comprendre ça. Comment est-ce qu'on prend soin de nos relations en tant que disciples les uns des autres? Comment est-ce qu'on veille sur nous? Souvent on voit le pasteur ou les responsables de l'Église comme des professionnels. Ben voilà, ils doivent être là, c'est leur rôle, ils doivent toujours être bien. Et puis, puisqu'on les paye ou on ne les paye pas, je ne sais, ben on a le droit d'attendre ceci et ça de. Donc c'est un peu des professionnels, et je redis ce que j'ai dit à toute l'Église, on profite, vous êtes en recherche d'un pasteur, d'un comprendre la volonté de Dieu. Cherchez pas un professionnel, mais cherchez un homme que Dieu appelle. C'est vraiment différent. Et un pasteur, un responsable, quel qu'il soit, c'est d'abord un formateur. Il se reproduit, et puis il va être comme un Jésus qui a des disciples. C'est quand même bien différent. Alors on peut avoir un super professionnel, un très grand orateur qui a beaucoup de diplômes, qui connaît toutes les interprétations des pour et des contre sur tous les livres bibliques, sur toutes les doctrines tendancieuses. Mais est-ce que c'est un formateur? Est-ce qu'il communique? Et puis, quand on est un paroissien, quand on a confiance dans ses responsables, dans l'Église, et qu'on a grandi, on se risque à ouvrir un peu notre vie, à être vulnérable envers nos amis, peut-être le pasteur, peut-être les responsables. Donc c'est bien, hein, et c'est juste. Mais si on est vraiment disciple, on est redevable. C'est-à-dire, on dit à ceux qui sont avec nous, t'as le droit de regarder dans ma vie et de m'encourager, de me reprendre et de m'aider. C'est un grand programme, hein, quand même. Hein. Je vais aller plus loin, je vais passer ça rapidement. Alors comment, on a dit, je vais juste aller à la suivante et je vais revenir, voilà. Un disciple, on l'a dit tout à l'heure, c'est un élève, c'est un apprenti. N'oublions jamais ça. Si on n'est plus élève, si on n'est plus apprenti, on est en grave danger. Peut-être que, et je pense qu'il y a des gens qui sont au Seigneur depuis plusieurs dizaines d'années, même dans l'Église, qui ont l'impression, bah, on connaît, et on connaît aussi tous les travers, et puis toutes les choses qui nous ont mis de l'espérance, et puis finalement, ça c'est... Et on est un petit peu, voilà, on sait. Mais si on n'est plus un élève et un apprenti, on est en grave danger. Est-ce qu'il y a quelqu'un, et c'est une question que chacun doit répondre, qui se voit plus comme un apprenti, comme un élève? C'est quelqu'un qui suit l'enseignement d'un maître, et pour le mettre en pratique. Est-ce que quand tu lis la Bible, est-ce que quand tu entends un enseignement et que tu sais que Dieu est en train de parler, c'est vraiment dans ton but de le mettre en pratique, et surtout là où ça nous dérange? Et je suis sûr que si on pose la question, on a tous des sujets qu'on n'aime pas entendre, parce que c'est des sujets qu'on a de la peine, hein. Et ils ne sont peut-être pas les mêmes pour les uns les autres. Mais il y a des endroits où on a de la peine. Mais c'est notre objectif, c'est de le suivre. Parce qu'on veut devenir comme ce maître. Notre but, c'est de devenir comme Jésus. Et puis ensuite, ce qu'on a reçu, on va le transmettre à d'autres, hein, l'idée de se reproduire. Et puis on est toujours disciple, c'est comme un cycle qui continue. J'aimerais m'arrêter sur comment on devient disciple. Alors, on a beaucoup de disciples expérimentés ici, qui sont là depuis longtemps, hein, et qui connaissent Jésus depuis longtemps. Mais je crois qu'on doit revenir à ça. C'est pas, on ne trouve pas ces mots dans la Bible. Mais j'ai entendu une fois un enseignement là-dessus, je me suis dit, mais purée, c'est vraiment, ça aide à comprendre. Si on veut apprendre quelque chose, on doit d'abord arriver à cette conclusion qu'on sait qu'on ne sait pas. Vous êtes d'accord? Quand on pense qu'on sait, on n'est pas ouvert à être enseigné. On n'a même pas conscience qu'on a besoin d'apprendre. J'aime vraiment une petite image. Je me souviens d'un ami, hein, le ski par exemple, quand on veut apprendre à faire du ski. Si on ne sait pas qu'on ne sait pas, c'est pas si simple. Hein. Je me souviens, je suis proche de l'avoir, 14 ans, j'avais noué des amitiés avec un ami de Paris. Moi, je venais d'un petit village dans le Jura suisse. Et puis, il était venu l'été. Une fois, il est arrivé l'hiver, il n'avait jamais mis les pieds sur des skis. Et puis, il voulait absolument faire du ski. Et puis moi, j'étais un peu tête brûlée. Et j'ai dit, bah, on va lui mettre des skis. Et puis, on monte directement, on remontait mécanique. Puis, on descend, quoi. C'était initiation directe. Hein. On n'a même pas commencé au plat. Mais lui était partant. Donc, moi, j'étais un peu... Et lui aussi. Donc, on est monté. C'était une petite station. C'était pas des pistes noires. Mais... Et puis, il avait quand même un peu peur. Mais comme il faisait du sport, il avait de la force. Donc, capable de tenir sur ses skis. Et puis arrivé en haut, je lui ai essayé de lui donner 2-3 conseils pour tourner et s'arrêter. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que il était comme ça sur ses skis, tétanisé. Mais vraiment, il est parti tout droit et ça a duré un long, long, long moment. Et il s'est explosé, il a cassé les skis. Un ski et la fixation, c'était pas les skis d'aujourd'hui. Et puis en fait, on a mis plus d'une heure pour redescendre jusqu'à la station et c'était fini pour le ski, pour lui. Et arrivé en bas, il y avait son papa qui attendait et moi je me suis... Mais en fait, et lui et moi, il ne savait pas, il n'était pas conscient de ça, moi je ne savais pas qu'il ne savait même pas. Il pensait que le ski, ben, il suffit de mettre ses jambes comme ça, puis ça va marcher. Et je crois que Jésus, il a été souvent confronté à ça avec ses disciples. Il voulait les enseigner. Il dit, et puis il la ramenait tout le temps. Et souvent, il a dû les emmener à des endroits où il devait réaliser qu'il ne savait même pas. Par exemple, quand il priait pour les Juifs, priaient. Ils avaient des prières le matin, le midi, le soir, pour le Shabbat, pour tout ça. Et puis quand il voit Jésus prier, ça a mis du temps, hein, mais tout à coup, il dit, Seigneur, enseigne-moi à prier. Ils ont mis du temps à comprendre qu'ils ne savaient pas. Il y a peut-être des endroits dans la vie avec Jésus où on va revenir là. Je ne sais pas, je ne sais pas. La vie du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit,
Comment l'Esprit Saint se manifeste au travers de moi, au travers de chacun de nous. Je crois qu'on arrive à grandir quand à un moment donné on dit « Seigneur, je sais que ça existe, je sais que tu veux le faire, mais je sais aujourd'hui que je ne sais pas. Apprends-moi, ouvre mes yeux, ouvre mon esprit. » Ensuite, la deuxième étape, et c'est là où je pense qu'on peut commencer à apprendre, c'est que on sait qu'on ne sait pas. Vous êtes d'accord, quand on sait qu'on ne sait pas, ben on a envie de chercher. On a appris par expérience, parce que notre intelligence nous l'a dit, qu'en fait, on pensait que c'était facile, que c'était atteignable, et du coup, on sait qu'on ne sait pas. Et du coup, on va être disposé à apprendre. C'est quoi les domaines dans la vie de l'Église, dans la vie de disciples, où aujourd'hui, tu sais que tu ne sais pas? Et je crois que c'est une question qu'on doit se poser en tant que personne, peut-être aussi en tant qu'Église, communauté. Et quand on est là, Jésus est vraiment disposé à nous répondre et à nous enseigner. Est-ce qu'on croit ça? C'est ça quand il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif ». Parce qu'on a soif, on sait qu'on ne sait pas et on a envie de savoir. Et après, quand on commence à le suivre et qu'il nous apprend, et on voit ça dans la vie d'ici, vous pouvez penser à tout ce qu'ils ont vécu. Quand il les envoie d'abord chasser des démons, prier pour les malades, puis ils ont des échecs. Mais à un moment donné, quand on grandit, et c'est normal, on sait qu'on sait. Quand vous avez appris à faire du ski, vous êtes peut-être passé par là, mais à un moment donné, ben vous savez que vous savez faire du ski. Vous savez tourner à droite, vous savez tourner à gauche, vous savez faire un triangle, vous savez, vous n'êtes pas, peut-être pas Alberto Tomba ou je ne sais pas, quel Suisse pour le dire. Bon, bref. Mais on sait qu'on sait. Et donc, quand on en est là, ben, avançons avec ce qu'on sait. Mettons-le en pratique. Et Jésus, quand il nous forme, et quand nous on forme des disciples, ces étapes-là, repensez-y. Pensez-y, elles sont vraiment fondamentales. Et à un moment donné, quand les choses sont vraiment acquises, je ne sais plus que je sais. Quand vous prenez votre voiture, ceux qui y conduisent depuis longtemps, vous ne vous posez pas la question comment je passe la deuxième, ou comment je appuie sur l'embrayage, dans quel ordre, c'est avant le frein, avant les gaz. Il y a plein de choses, on les fait parce que c'est acquis, c'est en nous. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Quand on sait bien ce qui est, on ne se pose plus la question, ah oui, je dois mettre le poids sur la jambe droite, et puis peut-être le bâton là, on fait les choses. Et je crois que ça, c'est un disciple qui a grandi, et qui fait les choses comme Jésus les fait. Et c'est le but que Jésus a pour nous. Je ne sais plus que je sais. Mais quand on en est là, c'est un petit peu comme pour l'autre, on est toujours disciple. Il y a rapidement des choses où le Seigneur va nous montrer, il va nous faire aller plus loin. J'aimerais que peut-être dans le petit moment de partage après, on pense à ces quelques questions. Je ne sais pas que je ne sais pas. Et on peut se poser cette question dans plein de domaines de la vie. Peut-être pour prier. Je ne sais même pas que je ne sais pas comment prier. Seigneur, enseigne-moi. L'évangélisation, la communication dans ma famille, dans mon couple. Ensuite, on sait qu'on ne sait pas. Ensuite, quand on commence à apprendre, on sait qu'on sait. Et là, on doit développer ça, on doit y aller. Et je ne sais plus que je sais. C'est parce qu'on a grandi. Et la Bible parle du fait qu'on devient des hommes faits. Il n'y a aucun orgueil à dire. Paul, il disait à un moment donné, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Il était orgueilleux. Hein. Imaginez, Pierre-Claude, tous les dimanches, il va dire, « Bon, cette semaine, vous allez m'imiter. » Mais, honnêtement, il n'y a rien de mal à ça, si ce qu'il vit avec Jésus est vrai. Ce n'est pas de l'orgueil. Vrai ou pas? Ce n'est pas de l'orgueil. Un bon prof de ski, à un moment donné, il dit à ses disciples, tu vas regarder comment je fais, tu vas le faire. Est-ce qu'on accepte ça? Mais est-ce qu'on accepte ça les uns des autres? Il y a des personnes qui peuvent dire aux autres, suis-moi, imite-moi. Peut-être dans d'autres domaines, ils ne sont pas bons du tout. Mais est-ce qu'on accepte ça? dans l'Église aussi. Ça, on l'a vu. On ne va pas y revenir. Et une fois qu'on en est là, eh bien, on doit le transmettre à d'autres. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'aimerais terminer et je vais conclure ainsi parce que je pense que ça va nous aider. Souvent, quand on est dans l'Église depuis longtemps, on fait des catégories. On se dit, ouais, mais moi, je suis juste un simple paroissien, un disciple bien caché. Mon ambition, c'est d'être fidèle et c'est bien. Mais je ne serai jamais comme Paul ou comme tel ou tel pasteur ou comme telle ou telle personne qui a fait de telles choses. Et vous savez, je crois que c'est vraiment faux. C'est totalement faux. En venant dans la voiture, Christelle me prend. On discutait, elle avait quelques questions, notamment quand Jésus revient et puis il dit qu'il va juger et qu'il va donner à chacun selon ses œuvres. Oui, moi je crois que quand Jésus va revenir, il va nous donner à chacun selon nos œuvres. Mais si on a, et elle me disait, mais alors un handicapé qui ne sait pas lire, pas écrire, qui n'a jamais allé à l'école, qui ne sait peut-être pas marcher, comment il peut être récompensé? Parce qu'il n'a pas... Mais Jésus dit, quand il parle de ça, il dit, selon ses capacités, selon ce qu'on a reçu. Et moi, je crois qu'il y a des gens qu'on regarde comme peut-être très faibles, très inadaptés ou un petit peu bébêtes. Et quand ils arriveront au ciel, ils auront peut-être des récompenses bien plus grandes que Martin Luther. Parce que ce qu'ils ont reçu, ils ont été totalement fidèles. Et ça, il n'y a que Jésus qui peut le dire. Jésus dit aussi... Si on vous a donné beaucoup, on vous demandera beaucoup. Donc, si tu as beaucoup de dons et de capacités, tu auras beaucoup de tu devras répondre de beaucoup. Alors, on va voir quelques-uns des disciples. Je vais aller vite, j'aimerais qu'on termine sur les questions. Il y a plusieurs sortes de disciples. Il y a premièrement les 12, les apôtres, ceux qui suivent Jésus. Et c'est facile à voir qu'eux, ils ont un appel particulier. Ils sont appelés disciples, c'est les premiers. Mais eux, très concrètement, ils ont dû littéralement tout quitter. Ce n'était pas juste être prêt, mais ils ont tout quitté. Quand Jésus est venu devant Matthieu, qui était en train de prendre les impôts, il lui a dit « Suis-moi », et la Bible est claire, il s'est levé, il a laissé son poste, et il a suivi Jésus. C'est vrai, hein? Et on voit ça pour tous les disciples. Ils ont vraiment suivi Jésus. Ils ont laissé leur job, ils ont laissé leur famille. Après, ils sont revenus. On voit que Pierre, il a sa belle-mère, il a une famille. Mais il y a un moment donné, ils ont tout quitté. Ils ont abandonné leur travail, ils ont abandonné leur situation. Ils ont suivi littéralement Jésus. Quand Jésus était à Jérusalem, il devait y aller. Quand il se déplaçait à Genève, il devait y aller. Ils n'avaient pas le choix. Et ils sont appelés disciples. Et ils avaient un appel particulier. Et le Seigneur appelle des gens comme ça, où on sait qu'on doit tout abandonner. On doit tous être prêts dans l'absolu. Si demain Jésus vient et te dit laisse ta famille, laisse ton job à campus et pars au... Je ne prophétise pas, hein. Mais dans l'absolu, on est bien conscient que c'est comme ça. Après, il y a d'autres personnes qui sont aussi appelées des disciples, c'est les 70. Et eux, ils n'ont pas tout quitté pour suivre Jésus. Ils devaient être là comme un deuxième cercle, ils étaient à certains moments là. Et Jésus les envoie. Et il les envoie pour prêcher, pour chasser les démons, pour guérir les malades. Mais ils n'ont pas dû tout abandonner, tout quitter comme les 12. Vous êtes d'accord? Et c'est des disciples. Ils ne sont pas moins disciples que les autres, mais ils n'ont pas le même appel. Plus intéressant, ou quelque chose qui, je pense, va nous encourager. Marie, Marthe et Lazare, c'est une famille, hein? Jean 11 et Jean 12. On les connaît bien à cause de Marthe et Marie, et ce qu'elles font quand Jésus les enseignait, Lazare qui meurt. Mais vous savez, ils avaient une maison. Hein, ils avaient une maison. Ils devaient être assez importants. En plus, ils devaient avoir des ressources. Ils devaient avoir une certaine aisance financière parce que Jésus allait avec ses 12 et il logeait là-bas. Je ne sais pas si tout à coup on arrive à 12, tiens, chez vous, là, pendant une semaine. Hein, on peut loger, vous nous logez, vous nous nourrissez, vous nous... Il faut un petit peu de ressources et un petit peu de place. C'était peut-être plus simple à l'époque. Mais ça veut juste dire que ces disciples-là, qui sont clairement des disciples, ils n'ont pas tout quitté. Ils n'ont pas quitté leur maison, ils n'ont pas quitté leur travail. Et ils servent vraiment Jésus. comprenez, on peut être un disciple total. L'important, c'est de répondre à l'appel. Et donc, quand on arrivera au ciel, si notre appel, c'était de rester un bon cordonnier, un bon père de famille, un témoin dans sa maison, fidèle dans son église et qu'on l'a fait toute sa vie, mais on aura des récompenses incroyables. Peut-être plus que quelqu'un qui était appelé à partir et qui n'a pas osé, qui a dit « bon, ben, je serai ancien dans mon église, c'est déjà pas mal. » Ou « je serai responsable du groupe de jeunes. » Mais si son appel, c'était de tout quitter, de partir, et que Dieu l'avait formé, l'avait préparé, mais je crois qu'il y a des gens, ils ont été fidèles, et ils sont restés avec une vie, on va dire, à vue humaine, sans éclat. Mais quand ils vont arriver devant Jésus, Jésus va leur dire « viens, bon et fidèle serviteur. » Vous croyez ça? Et je prie que peut-être certains, ça les encourage, ça nous encourage. Joseph d'Arimathée, vous vous souvenez de cet homme? C'est celui qui va demander le corps de Jésus. Hein, quand Jésus meurt, il est dit, ceux qui veulent prendre des notes, vous voyez ces textes dans Matthieu 27, 57-60 et dans Marc 15, 43-46. Il y a d'autres endroits, mais c'est lui. Je lis juste Marc. Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du conseil, donc dans les responsables du peuple juif, au temple, qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate, c'est pas rien, hein? Qui est-ce qui est prêt d'aller voir le président de la Confédération, le maire de sa commune, ou je ne sais. Il a été voir la plus haute autorité humaine qui était là, pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit venir l'officier, lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Une fois renseigné par l'officier, Pilate fit remettre le corps à Joseph, Joseph d'Arimathée. Joseph acheta un drap de lin, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le drap de lit et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. C'était le tombeau familial. Et il a dit qu'il était disciple de Jésus. Cet homme, il est riche. Parce qu'il a un tombeau, c'était que les riches qui avaient un tombeau. Il avait des sous. En plus, il est dit qu'il est un membre éminent. Il avait une place élevée dans la société, dans le monde religieux. Mais c'était un disciple de Jésus. Il n'a pas dû tout quitter comme les 12. Et Jésus ne lui a pas demandé. Mais lui devait être fidèle avec ce qu'il avait. Et parce qu'il a demandé le corps de Jésus, il a eu le courage d'aller voir Pilate. Il a accompli les prophéties. Il a dit que son corps devait être mis dans le tombeau, qu'il devait être préservé. Il a parlé du linceul dans les paroles prophétiques. Et lui, il a été un disciple qui a compris qu'il devait garder sa situation d'influence, de ressources, de position sociale. Je ne sais pas s'il l'a compris, mais il l'a fait. Mais le texte nous montre qu'il a été fidèle et que c'était pleinement un disciple, comme les 12. Vous êtes d'accord? Et donc ça veut dire que quoi qu'on fasse, si on sait que ce qu'on a fait de notre vie, on l'a fait parce qu'on a obéi à Jésus, et qu'on le fait parce que jusque-là, on n'a pas d'autres instructions, on est pleinement disciple. Vous êtes d'accord avec ça? Enfin, moi je vous le dis, et on n'a pas à se comparer avec peut-être un banquier, ou je ne sais pas qui sont vos rêves, hein. Moi ce n'est pas mon rêve, mais comme ça, on a peut-être des gens, on se dit, ouais, mais eux, quand même, c'est extraordinaire. Et quand il arrivera au ciel, Joseph d'Arimathée, j'imagine, hein, mais Jésus va lui dire, t'étais un bon et fidèle serviteur. T'as travaillé toute ta vie, t'as né dans une famille influente, mais t'as été fidèle, et quand il y avait besoin, t'as mis ton argent, t'as pas eu peur d'aller voir les autorités, parce qu'il s'est fait crier, là, hein, par les autorités juives qui rejetaient Jésus, et il a été pleinement disciple. Est-ce que tu es un disciple de Jésus? Est-ce que ça nous aide à comprendre comment on peut être fidèle? Des fois, si on pense que être disciple, c'est juste être comme les 12, où on doit littéralement tout quitter, abandonner notre maison, abandonner notre famille, partir de notre village, de notre pays, aller au loin, Mais je crois que ça reste des fois dans notre esprit. Est-ce que ça reste pas un petit peu comme le truc parfait? Et on se dit, ouais, ben moi, je ne suis pas là. Ben, c'est faux. C'est faux. Vous pouvez vous dire, c'est faux. Si Jésus ne t'a pas appelé à tout quitter, ben, quitte pas. Et on voit Jésus, il fait ça souvent. Il guérit quelqu'un. Par exemple, Démoniaque de Gadara, il dit, Seigneur, je vais tout quitter, je vais te suivre. Jésus dit, non. Tu rentres dans ta famille, tu rentres dans ton village, et tu vas leur dire tout ce que j'ai fait pour toi. Il était disciple. Et après, on voit que dans la chambre haute, quand la Pentecôte arrive, ils sont 120. Et puis, on pourrait dire que les disciples de tous les temps, c'est autant d'appels différents. Alors, est-ce qu'on suit Jésus? On se rappelle ce qu'on a dit avant, on est des apprentis. Là où on en est aujourd'hui, à Versoix, dans la paroisse de Versoix, le 6 septembre 2020, est-ce que je suis toujours en train d'apprendre? Est-ce que vous croyez que Jésus veut apprendre quelque chose, veut apprendre quelque chose en tant que communauté, et à chacun en particulier? Et peut-être qu'on va découvrir que, ben voilà, nous en tant que personne, et peut-être aussi en tant que communauté à Versoix, on n'a pas le même appel que les autres, mais on doit être fidèle dans ce que Dieu nous demande de faire. Et en fait, c'est ça qui est important. Vous êtes d'accord? Je vais terminer en priant. Mais Seigneur, et qu'on laisse là où ça nous a parlé personnellement, chacun, cette parole descendre en nous. Et dire, Seigneur, ben, même si j'ai 80 ans, 75 ans, 12 ans, qu'est-ce que tu me dis à moi aujourd'hui? Seigneur, merci parce que tu nous appelles à être des disciples. Tu nous appelles à être des apprentis. C'est-à-dire des gens qui regardent leur maître pour recevoir des informations, mais bien plus des manières d'être et des manières de faire. Et je prie que tu nous parles à chacun. Je prie pour chacun en particulier ce matin, pour moi-même et pour chaque personne ici et ceux qui nous écoutent aussi au travers d'Internet. Seigneur, peut-être qu'il y a des endroits où on a fermé notre oreille, où on s'est dit on sait, ou c'est pour d'autres, ou moi je vaux rien. Seigneur, je prie que ça soit enlevé. Et que là où tu veux nous parler, tu nous dis, toi, suis-moi dans ce domaine-là, on entend ta voix. Je vais continuer à prier. Je crois qu'à Versoix, le Seigneur veut vous faire entrer, je crois, il y a ça, plus loin dans la vie de l'esprit, en tant que personne, mais aussi en tant que communauté. Il y a des choses qu'on sait déjà, que vous avez vécues, des informations qu'on a, mais Seigneur, fais-nous aller plus loin. Jésus, il a pris du temps avec ses disciples pour leur parler du Saint-Esprit. À un moment donné, il va leur dire, il a même soufflé sur eux, pour qu'ils comprennent, je crois, que quand l'Esprit allait venir, ça allait être comme un souffle. Il a pris du temps pour débloquer des choses qui étaient bloquées en eux, qui les empêchaient de comprendre comment ça allait se passer. Je ne suis pas en train de dire que l'Esprit Saint n'est pas là et qu'il n'y a pas de vie de l'Esprit. Mais je crois que le Seigneur vous emmenait plus loin. Alors Seigneur, tu vois, je prie pour cet aspect de la vie de l'Esprit où on est aussi tes disciples. Seigneur, on aimerait te dire ensemble, et si vous êtes d'accord avec ça, Seigneur, on sait qu'on ne sait pas. Peut-être qu'on ne sait même pas qu'on ne sait pas. Ben, ouvre nos yeux et apprends-nous, Seigneur, là où on en a besoin. Et Seigneur, je prie aussi pour ceux qui sont plus âgés ou ceux qui sont là depuis si longtemps, qui connaissent tous les rouages, toutes les ficelles, magouilles, toutes les histoires d'église et de... On n'ose même plus aborder. Seigneur, je prie qu'on sache mettre ces choses au bon endroit et que tu donnes la fraîcheur pour aujourd'hui, pour cette saison, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a peut-être quelques questions, je ne sais pas le temps qu'on peut prendre, peut-être une ou deux, et juste pendant qu'on réfléchit à ça, souvent quand je prêche, je parle de ma maman, je ne sais pas si j'ai déjà fait ici, ma maman m'a beaucoup marqué, c'était une femme très simple, femme d'agriculteur, qui
qui n'a jamais bougé de son petit village. Mes parents n'ont jamais eu de voiture. C'était des gens très simples. Mais elle avait une foi solide. Et puis, sa foi a été ranimée quand je me suis converti. C'est elle qui a prié pour moi, qui m'a enseigné la Bible. Et après une conversion radicale, c'est comme si sa foi a repris un élan nouveau. Et c'était quelqu'un de tout simple. Hein. Mais elle n'avait pas peur quand elle lisait le journal du Jura. On habitait le Jura bernois, c'était le journal qu'il lisait, qu'il y avait des choses qui ne lui plaisaient pas. Elle prenait son crayon, son stylo, une feuille de papier, et elle écrivait au journal. Qu'elle disait sur l'avortement, sur l'occultisme, sur des problèmes de drogue, sur des émissions qui avaient passé. Et puis elle écrivait très concrètement, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je vais prier pour vous. Et plusieurs fois, ces articles ont été remis dans le journal. Elle a fait la même chose pour la télévision, elle a fait la même chose pour plein de choses. Et pourtant, c'était quelqu'un de très simple. Et je suis sûr, quand en arrivant là-haut, elle a été fidèle. Hein. Elle n'a jamais prêché. Quoi que si, elle avait un groupe de, comment ça s'appelait, les rendez-vous avec la Bible, là, qui avait beaucoup de succès. Et donc, c'est juste pour dire qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire et être sans forcément que ce soit vu et visible dans l'Église ou par les autres. Amen. On peut laisser une question ou deux?
Ouais.
Ou...
Ouais, deux questions, ouais.
Liées à ce qu'on a partagé, peut-être qu'il n'y en a pas.
Ce que tu veux dire, c'est que s'il y a des... Normalement, c'est dans l'autre sens.
C'est moi qui pose des questions?
C'est-à-dire que tu poses des questions, puis dans le petit groupe, on échange sur les questions.
C'est bien.
On peut prendre des points.
En fait, j'avais dit au début, c'est une des questions qu'on doit se poser. Je reviens là-bas. Et on peut se mettre par petit groupe. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je crois que je vais fermer. C'est pas très grave.
Je peux remettre.
Non, mais en... Où est-ce que, par exemple, quel endroit on pense qu'en tant que... On peut peut-être le prendre en tant qu'église, en tant que paroisse de Versoix, où on a besoin de dire « je sais que je ne sais pas ». Et Seigneur, enseigne-nous. Peut-être c'est une question, je ne sais pas, vous faites habituellement deux, trois petits groupes.
Trois, quatre.
Et peut-être que ça suscite quelque chose. Alors l'idée, c'est que c'est pas que ça fasse des polémiques entre nous, mais que ça nous interroge en fait. Et puis, comment est-ce qu'on peut permettre au Seigneur de nous parler sur cet aspect-là? C'est où il veut nous faire avancer en tant que communauté?